Et au menu de notre club cet après-midi, quelques leçons pour éviter la catastrophe, tout sur l'amour et des expéditions scientifiques dans les milieux les plus extrêmes. Je vous présente mes invités dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, ces images d'une relation sexuelle entre un macaque et une biche qui ont fait le tour du monde.
Eh oui, on les a tous vus, un rapport sexuel inter-espèce, rare dans la nature, qui intéresse autant les internautes que les chercheurs strasbourgeois qui l'ont rapporté. On en parle sans tabou avec le primatologue Cédric Sueur.
Et c'est Stéphanie Texier qui réalise ce club préparé par Chantal Le Montagné avec Pierre de Certaine.
La tête au carré, le club avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et dans notre club, j'accueille aujourd'hui Emma Lacloune, Catherine Dolto, Hervé Kempf et Christian Claude. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Et bienvenue Hervé Kempf, journaliste, rédacteur en chef de Reporter.net et chroniqueur le lundi pour La Tête au Carré. Vous publiez Hervé, tout est prêt pour que tout empire, mais il faut également lire le sous-titre. 12 leçons pour éviter la catastrophe, pour ne pas se laisser entraîner dans un pessimisme absolu. De quelle catastrophe vous voulez parler exactement ?
La catastrophe qui est en train d'arriver, qui a une dimension historique première dans l'histoire de l'humanité, qui est la catastrophe écologique, et à laquelle toutes les autres crises peuvent et doivent être rapportées.
Et heureusement, on a des solutions, vous allez nous les donner hein, dans quelques minutes. Catherine Dolto et Emma Lacloune, de retour ensemble sur scène avec le grand symposium sur l'amour. C'est au théâtre de Belleville à Paris, l'amour, sujet protéiforme, pour lequel la science a des choses à nous dire, Catherine Dolto ?
Oh, je pense que tout le monde a quelque chose à nous dire. Oui, certainement. La science, d'ailleurs, elle a des choses à dire sur tout. Hein.
Mais vous les convoquez, les scientifiques, quand même.
Oui, on les convoque, mais peut-être pas forcément pour dire des choses scientifiques.
Myriam Menant, l'amour fait beaucoup réagir Emma Lacloune, également. Hein.
L'amour, la sexualité, la pornographie, toutes ces choses-là, plus ou moins vivement. Mais oui, bien sûr, bah oui, l'amour, c'est quand même fondamental pour un clown. Hein. C'est
vaste tour d'horizon. Hein. Donc, tout à l'heure, on en parle, ce spectacle est à voir jusqu'au 30 janvier. Christian Claude, adaptation, votre expédition en quatre parties pour explorer les lieux les plus extrême de la planète. Après l'Iran, le Chili, le Brésil, vous allez rejoindre la Sibérie là, dans quelques jours. Comment vont votre corps et votre cerveau après ces trois premières expéditions ? Tout va bien ?
Pas si mal.
Vous avez bonne mine en tout cas.
Oui, ça va, non, ça se passe pas si mal, surtout comme on étudie justement la capacité du cerveau à s'adapter à des situations complexes. J'essaie de le garder en bonne santé jusqu'à un certain point.
Bon, en tout cas, vous êtes en train de recruter 20 personnes pour partir avec vous en 2018. On va en reparler dans quelques minutes. Et nous attendons bien sûr les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur l'ensemble de ces sujets sur franceinter.fr et sur le mot-clé « la TAC ». La truculente aventure japonaise de la biche et du singe, nouvelle fable, un cas unique de pratique sexuelle inter-espèce, aujourd'hui à la une de la science.
Ma biche, où êtes-vous, ma biche ?
Elle est dans les bois, chef.
Tout suffit, peut-être moi, non ? Allez, on y va, chef. Allons ! Ma biche, c'est un affreux malentendu.
Voilà, mais c'est d'une autre biche, évidemment, dont nous allons parler avec cette vidéo qui a fait le tour du monde et des réseaux sociaux en moins de 3 jours. Tout le monde l'a vu quasiment autour de la table, Catherine Dolto.
Non, moi, je l'ai pas vu.
Myriam l'a pas vu, on va vous les montrer. Ce petit macaque japonais qui fricote et qui se soulage sur une biche Sika sur l'île japonaise de Yakushima. Derrière la caméra, il y avait le photographe animalier Alexandre Bonnefoy qui a contacté immédiatement ses collègues chercheurs de l'Institut Bercurien à Strasbourg. Et la suite, c'est vous qui allez nous la raconter, Cédric Sueur. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes primatologue, maître de conférence à l'Université de Strasbourg. Comment est-ce que d'abord vous avez réagi lorsque le photographe Alexandre Bonnefoy vous a raconté et montré ce qu'il a vu ?
Alors, il nous a d'abord raconté cet événement et au début, on l'a pas du tout cru. C'est ensuite, quand on a vu les images, qu'on a compris que c'était pas du rodéo, donc le comportement culturel des macaques japonais sur les daims, mais que c'était bien une relation sexuelle d'un mâle sur une daine.
Les macaques japonais font du rodéo sur des daims ?
Oui. Alors, il y a une relation particulière de coopération des daims et des macaques sur l'île de Yakushima, parce que les daims, en fait, profitent des fruits et des feuilles qui sont laissés tomber par les macaques japonais des arbres au sol. Mm-hmm. Et les macaques vont toiletter les daims. Et en fait, il y a un comportement qui est né, qui ce sont des jeunes qui se sont mis à monter sur les daims pour jouer, faire du rodéo, mais également pour se déplacer sur quelques mètres.
Alors, plus sérieusement, les photos et les vidéos d'Alexandre Bonnefoy vous ont permis de publier un article cette semaine dans la revue Primates. Comment est-ce que vous expliquez ce comportement très particulier de ce petit singe, alors ?
Alors, c'est un singe mâle, quand même, adulte. Mmh. Donc, en fait, c'est un singe périphérique. Donc il n'a pas accès aux femelles et ça s'est produit durant la saison de reproduction en novembre lorsque Alexandre était là-bas pour prendre les photographies pour notre projet Saru Singe du Japon. Et en fait, du coup, je pense que comme ce singe mâle n'avait pas accès aux femelles macaques et qu'il était un peu frustré, il s'est soulagé sur une daine.
Donc vous voulez dire que c'est un peu le loser de la famille macaque, quoi, c'est ça, dans la tribu des singes?
Bah, les macaques japonais, en fait, ne vont pas tolérer tous les mâles dans le groupe. Et vous avez beaucoup de mâles périphériques qui n'ont pas forcément accès à des femelles. Et du coup, ces mâles font ce qu'ils peuvent, je pense.
Je voudrais pas paraître trop curieux, mais est-ce qu'un singe et une biche, c'est anatomiquement compatible?
Non, pas du tout. J'ai souvent eu cette question de qu'est-ce que ça allait donner. Ça peut rien donner du tout, en fait. Autant un lion et un tigre peuvent donner un hybride, un cheval et un âne, mais là, une biche et un macaque ne peuvent rien donner du tout.
Oui. Alors, puisqu'on est vraiment dans les détails de l'opération, et puisqu'on est quand même avec des spécialistes de l'amour ici, il y a eu pénétration ou pas entre le macaque et la biche? On aimerait bien savoir quand même.
Non, non plus.
Ah là là, déception.
Alors, mais quelle est la nature de l'acte pour le singe dans ce cas-là?
Bah, c'est vraiment un rapport dans le sens où en fait lui ça lui permet de soulager ses pulsions sexuelles. Et en plus ce qu'on veut voir c'est qu'après il y a vraiment aussi éjaculation et que la femelle d'aine lèche la semence probablement pour avoir un complément protéinique derrière.
Ah oui, d'accord.
Alors ce qu'il faut savoir c'est que ce singe c'est un des singes les plus étudiés de la planète. Donc vous êtes sûr que c'est la première fois que cette chose est observée dans la nature?
Alors nous, on l'a rapporté pour la première fois d'un point de vue scientifique. Après, on en avait discuté avec des collègues japonais et eux n'avaient jamais observé non plus ce comportement.
Comment vous expliquez ça? C'est l'émergence d'un comportement ou alors c'est simplement un singe très marginal?
Non, c'est l'émergence d'un comportement. En fait, chez les macaques japonais, on a beaucoup de comportements dits culturels. Donc ça aussi, on le rapporte dans notre livre. Et en fait, si vous avez un comportement culturel qui est un comportement qui est appris de la part d'un groupe d'individus, vous avez forcément à un moment donné une innovation. Et là, on est en face d'une innovation, c'est-à-dire d'un individu qui a émis un nouveau comportement et qui peut probablement le transmettre ensuite à d'autres mâles, mais ça, il faudra voir d'ici quelques années.
Alors Cédric, est-ce qu'on pourrait imaginer la situation inverse, c'est-à-dire un cerf avec une dame macaque?
Je pense qu'anatomiquement, ça sera encore moins possible.
Oui.
Mais vous voulez dire dans quel sens? La femelle qui monte sur...
Ah ben ça, je sais, la position, je vais pas rentrer dans les détails, on peut tout imaginer. Une relation sexuelle, c'est déjà pas mal, après c'est ouvert, entre un cerf et une femelle macaque, voilà. Mais ça, on l'a jamais observé non plus, apparemment, alors.
Alors ça, j'ai un collègue, Jean-Baptiste Leca, qui nous a rapporté qu'il y avait, là où il étudiait des macaques japonais, des femelles macaques qui, au moment de la saison de reproduction, c'est-à-dire également en novembre, montaient sur des daims mâles pour se frotter également. Ce qu'il y a également chez les macaques japonais, c'est que les femelles n'ayant pas accès aux mâles au moment de la saison de reproduction ont aussi des comportements homosexuels, par exemple.
Mm-hmm. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est la première observation de ce genre de pratique? Parce que la zoophilie consentie existe aussi chez l'homme, on connaît.
Oui, chez l'homme, on connaît. Mais du coup, nous, on a raconté que c'était la première observation chez un macaque japonais.
D'accord.
Et chez un primate non humain. Après, ça a été observé, par exemple, chez une otarie qui avait qui harcelait un manchot. Donc ça avait été rapporté en 2004, je crois. Et là, c'était vraiment la première étude sur ce comportement sexuel interespèce.
En termes de biologie évolutive, quel est l'intérêt d'étudier ce genre de comportement à la marge?
Alors nous, on n'étudie pas la reproduction du tout, en tout cas moi et Marie Pellet, on n'étudie pas du tout la reproduction là où on travaille, au DEPE. Par contre, il y a des chercheurs qui peuvent travailler sur la reproduction, et ça va on va essayer de comprendre, souvent comme n'importe quel comportement, si on a ces comportements-là chez les animaux, ça nous permet de comprendre pourquoi on a ces comportements-là chez l'homme, par exemple. Que ça soit pour des comportements sexuels, pour des comportements économiques, pour des comportements sociaux. Le fait d'étudier les animaux nous permet de comprendre l'évolution de ces comportements jusqu'à l'homme.
Vous êtes surpris, Cédric Seur, de l'effet, de l'ampleur là autour de ces photos qui ont fait vraiment le tour du monde? Je sais que vous avez été interrogé par la presse du monde entier. Ça vous a surpris ou pas?
Quand on allait publier l'article, je savais qu'on allait pouvoir avoir une petite news en Science ou peut-être dans Le Monde. Par contre, je pensais pas qu'on allait avoir autant de romans sur d'autres journaux et ni qu'on allait avoir au temps de vue sur la vidéo, là on arrive à peu près à 2 millions de fois, 2 millions de vues sur la vidéo. Et là, non, on n'en était pas du tout conscient.
Et vous allez avoir Emma Lacloune qui va visionner ces images parce qu'elle ne les a pas encore vues. Merci beaucoup, Sadek Sueur, d'avoir pris le temps de nous raconter cette histoire. On peut citer le livre d'Alexandre Bonnefoy, coécrit avec Marie Pelé et vous-même, qui s'appelle Saru, singe du Japon. Et puis il y a une exposition également à Strasbourg en ce moment, hein, c'est ça?
Oui, donc il y a une exposition à Strasbourg en ce moment avec une cinquantaine de photographies à la médiathèque André Malraux. Et demain, Alexandre Bonnefoy fera une conférence justement à 15h à la médiathèque à propos de son carnet de voyage au Japon, à propos de ce sujet sur les singes.
Eh bien, rendez-vous est pris pour les Alsaciens. Merci beaucoup à vous, Axel. Bon week-end. Merci.
Bon week-end.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, jouer beaucoup aux jeux vidéo n'est pas forcément dangereux tant qu'on est plusieurs. C'est le constat d'une étude de l'école de médecine Johns Hopkins menée sur près de 10 000 jeunes néerlandais jouant plus de 4 heures par jour aux jeux vidéo. Selon leurs observations, la pratique intensive du jeu ne pose pas nécessairement de risque d'addiction ou de dépression tant qu'elle n'est pas solitaire. Le jeu vidéo est souvent l'occasion de fortes interactions via le jeu ou les réseaux sociaux. Les chercheurs ajoutent que pour les joueurs pathologiques, le jeu n'est pas forcément la cause mais parfois le révélateur d'un malaise plus profond chez les jeunes. Une vidéo étonnante, pour la première fois, la vitesse d'attaque d'un serpent à sonnette a été mesurée dans son habitat naturel. Des biologistes californiens ont observé dans la nature, des serpents à sonnette chassés de petits rongeurs, des rats kangourous. Ils ont pu mesurer que la vitesse d'attaque du serpent, environ 3,5 mètres par seconde, était supérieure à celle mesurée jusque-là en laboratoire. Autre différence, l'esquive du rongeur était également plus rapide en pleine nature grâce à une réserve d'énergie conservée dans ses pattes arrière. Et vous pouvez voir justement cette esquive en vidéo sur notre compte Facebook. Et puis notez sur vos tablettes la semaine de culture scientifique à Bordeaux qui va commencer mardi prochain jusqu'au 21 janvier. C'est l'association Dealer de Science qui organise une série d'événements sur le thème du temps. Dessiner, débats, des conférences et même un jeu de piste auront lieu à l'espace Saint-Rémy de Bordeaux. Vous aurez tout le programme sur la page Facebook de La Tête au Carré. Et c'est le club dans un instant. Just Your Fool, les Rolling Stones sur France Inter.
La Tête au Carré, le club.
Et au menu de notre club cet après-midi sur France Inter, 12 leçons pour éviter la catastrophe, tous sur l'amour, 4 expéditions dans les milieux les plus extrêmes avec mes invités Catherine Dolto, Emma Lacloune, Hervé Kempf et Christian Clotte et bien sûr vos messages franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Hervé Kempf, on va commencer avec vous, vous êtes le fondateur du site reporter.net, le quotidien de l'écologie. Tous les lundis vous êtes dans La Tête au Carré et dans un grand élan d'optimisme, vous publiez donc au Seuil « Tout est prêt pour que tout empire », 12 leçons donc pour éviter la catastrophe avec un un constat simple, Hervé, nous vivons dans une époque de violence profonde, dans un climat de guerre civile mondiale, avec trois tensions principales que vous avez identifiées, la crise écologique, le terrorisme et la politique néolibérale, et vous montrez dans cet ouvrage que tout est lié au fond.
Oui, ce livre, il est parti un peu d'une réaction, il n'a pas été médité des années, mais d'une réaction de ce qui s'est passé en juillet après l'attentat de Nice du terrorisme, qui était évidemment absolument émouvant, bousculant, bouleversant, pour moi comme pour tout le monde. Et puis après, il y a eu un débat que j'ai trouvé totalement surréaliste sur le burkini. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal, c'est-à-dire une focalisation de l'ensemble de l'attention publique sur un point particulier, sur une question, le terrorisme, l'islamisme, l'intégrisme, tout ça mélangé ensemble, et faisant disparaître en quelque sorte de l'attention publique le reste du tableau. Ouais. Et donc j'ai voulu montrer que, en fait, ces phénomènes s'inscrivaient dans un tableau plus général, qui a à voir avec l'écologie, globalement, et qui a à voir aussi, et ça c'est la racine de la violence que vous avez évoquée, à l'inégalité profonde, qui est un phénomène majeur de la période actuelle, si on la compare à ce qui se passait il y a, mettons, 40 ou 50 ans.
Ouais, le capitalisme, l'écologie, les inégalités. Alors, vous avez déroulé le fil de l'histoire, au fond, histoire récente, hein. C'est ça qui est intéressant dans ce texte court, très nerveux, puisqu'en 100 pages, vous dressez vraiment le panorama de ce qui s'est passé, au fond, dans des périodes très, très précises, à la fin des années 70, et sur des dates extrêmement charnières.
Hein. Il y a un tournant qui s'opère en quelques années, entre, en gros, 1978 et 1980, où on observe des tournants très forts. Ouais. En Chine, les quatre modernisations lancé par Deng Xiaoping. En 79, l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique, l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher en Angleterre et de Ronald Reagan aux États-Unis. Ouais. La première conférence sur le climat scientifique,
à Genève,
qui passe inaperçue, mais qui est le premier moment où les scientifiques se réunissent pour dire il se passe quelque chose avec le changement climatique. Ouais. Dans l'ordre des idées aussi, le texte très important de Hans Jonas, Le principe responsabilité, qui va avoir un énorme succès en Allemagne, et qui surtout dit quoi ? Qui signe la fin de l'idéologie du progrès, la fin de l'idée des Lumières que l'humanité allait vers un avenir toujours meilleur, et Hans Jonas réintroduit la perspective apocalyptique. Et donc on a dans ces 3-4 années charnières, puis d'autres événements que je n'ai pas détaillés, un vrai basculement qui entraîne le monde dans ce qui conduit à la situation à l'heure actuelle, et qu'on pourrait résumer après l'effondrement de l'Union soviétique, la fin de la guerre froide évidemment, la montée de l'intégrisme et de forces religieuses, mais qui sont relativement secondaires à mon avis par rapport au changement du capitalisme lui-même, du néolibéralisme et de cette montée des inégalités qui transforme l'ensemble des rapports sociaux.
C'est ça, avec le capitalisme qui finalement occupe tout le terrain. Après la chute justement du communisme, c'est ça, c'est qu'il n'y a plus rien face au capitalisme quasiment.
Au début, il occupe tout le terrain, et au lieu en quelque sorte de se réformer, de se dire bon, on a gagné cette bataille et on en a perdu la mémoire un petit peu, mais la guerre froide a été un affrontement entre deux grandes puissances mondiales extrêmement angoissant aussi. Il y avait un enjeu de destruction mondiale par les bombes atomiques. Après cette victoire, l'Occident, le monde libre, comme on disait, aurait pu en quelque sorte se réformer et dire maintenant on va aller vers la paix. Il y a un rendez-vous par exemple qui est manqué, qui est celui du sommet de la Terre en 1992, puisque la question écologique commence à apparaître à la fin des années 80. Et là, on aurait pu se dire, on va changer les modalités, on va vraiment prendre en compte la question environnementale, puisqu'on n'a plus cette logique d'affrontement, et c'est pas du tout le choix qui va être fait par les classes dirigeantes, par ce qu'on appelle les élites, et qui va aller plutôt au contraire vers la recherche à tout prix de la croissance, vers la poursuite de l'inégalité, vers l'accumulation de richesses, et qui conduit aux désordres écologiques qui sont toujours premiers, aux désordres sociaux que l'on connaît aujourd'hui.
Et puis là aussi, des événements marquants au début du 21e siècle, le 11 septembre 2001, évidemment, la grande crise financière de 2008. 2007 avant, alors un grand rendez-vous aussi pour l'écologie, c'est le GIEC d'abord, le rapport du GIEC, et puis la conférence sur le climat de Copenhague, avec des choses très particulières qui sont dites à ce moment-là. Les fameux 2 degrés, c'est Copenhague. Hein.
Tout à fait. C'est là, donc en 2009, fin 2009, que on dit il ne faut pas dépasser 2 degrés Celsius de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle, et ça, tous les pays du monde le disent quand même, y compris, et c'est très important, les pays du Sud, les pays émergents, qui jusque-là renaclaient en disant la question du réchauffement climatique, c'est une affaire de riches, des pays riches. À partir de Copenhague et de ce texte, il y a quand même la compréhension que la question climatique, quelles que soient les inégalités de richesse et de puissance, concerne quand même l'ensemble de la planète et de la société humaine.
Hervé, la grande question, le grand défi aujourd'hui, c'est vraiment l'écologie.
À mon sens, oui, et il faut bien comprendre pourquoi, en se plaçant d'un point de vue historique. C'est-à-dire que la crise économique, les inégalités, les conflits que nous connaissons, le terrorisme, c'est extrêmement grave, ça peut avoir des conséquences terribles, mais cela va passer. Cela va passer parce que l'histoire humaine est une histoire de conflits, mais on surmonte les conflits toujours. Mmh. Le caractère absolument nouveau avec la question écologique, et que je crains que beaucoup de nos contemporains ne le comprennent pas suffisamment, c'est son caractère irréversible. C'est-à-dire ce que nous disent les scientifiques, que ce soit dans le domaine climatique ou que ce soit aussi dans le domaine de la biodiversité, vous savez qu'il y a une crise d'extinction des espèces extrêmement grave en ce moment, c'est que si on dépasse des seuils, on ne pourra pas revenir en arrière à une échelle humaine. L'échelle humaine, c'est quelques décennies, un siècle peut-être. Le temps de la nature, le temps de la planète, le temps du climat, c'est un temps de millénaires. Et donc, c'est en ce sens-là que la question de l'irréversibilité de la dégradation écologique est absolument fondamentale. Et c'est pourquoi, à mon sens, et heureusement, je ne suis pas tout seul à le penser, c'est autour de cette question qu'il faut réorganiser la pensée politique. La pensée politique étant comment est-ce que collectivement, les citoyens, les citoyennes, les sociétés envisagent leur avenir commun.
Donc imaginez, envisager justement l'écologie comme un vrai programme géopolitique aujourd'hui ?
Ça l'est maintenant incontestablement, c'est reconnu par des spécialistes de politique étrangère, par des militaires, par les grandes institutions. Pourquoi ? Parce que maintenant, alors que par exemple, on parlait de 79-80, la question de la crise écologique était dans l'avenir, même pour Jonas c'était un avenir, maintenant c'est déjà notre présent. Et on commence à percevoir l'effet des sécheresses, l'effet de la disparition de la forêt tropicale, l'effet des inondations. On commence aussi à en voir les effets humains par les migrations, par des sociétés qui se déstabilisent, par des entrées en conflit. Et maintenant, peu à peu, la question écologique devient réellement une force géopolitique.
Christian Claude, vous qui parcourez le monde et les milieux les plus reculés aussi, vous observez justement dans ces contrées assez difficiles d'accès déjà aussi ces dégradations qu'évoque Hervé Kempf?
Oui, incontestablement. Alors moi, je suis évidemment en première loge, entre guillemets, pour voir des endroits où, par exemple, très peu de monde a été, voire quasiment personne. Et pourtant, on trouve des déchets plastiques amenés par les courants et les vents. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un endroit du monde qui est totalement préservé. Ça n'existe quasiment plus. Et moi, je suis content qu'on parle de problèmes écologiques global, parce qu'on parle trop souvent du réchauffement climatique comme étant le seul problème. On oublie de parler des plastiques, on oublie de parler des déchets, des choses qui, elles, sont réellement nouvelles. La Terre n'a jamais connu le plastique à telle échelle. Et moi, j'étais au Népal, là où j'ai rencontré des hommes qui avaient quasiment jamais vu d'hommes blancs, que je suis retourné 11 ans plus tard. Ils ne pouvaient plus cultiver les sols tellement ils étaient saturés en plastique, alors qu'il n'y en avait aucun 10 ans avant. Donc oui, forcément, quand on voit ce genre de choses, on se rend compte que l'impact ne touche pas seulement quelques grands pays industriels, mais va toucher l'ensemble du système planétaire et par conséquent biologique.
Ouais, Hervé Kempf, l'arrivée de Donald Trump à la tête des États-Unis, c'est quand même très inquiétant pour la question écologique et climatique.
Bah oui, je suis désolé de dire que ça confirme le titre. Tout est prêt par que tout empire, parce que on voit. Et ce qu'il y a de fascinant, mais d'extrêmement inquiétant, évidemment, avec Donald Trump, c'est de voir le refus de la réalité par ces personnes. C'est-à-dire qu'il arrive, il dit « je ne crois pas au changement climatique ».
Mais il y a trop d'intérêts financiers aussi pour eux.
Il va nommer à la tête du ministère des Finances un représentant de Goldman Sachs. Il va nommer à la tête des affaires étrangères le PDG de la première société pétrolière du monde, Exxon. Il va nommer à la tête du ministère de l'Environnement un climato-sceptique avéré. Et donc ça, c'est effectivement absolument inquiétant. C'est-à-dire la première puissance du monde est dirigée par des personnes qui refusent de voir ce qui est sans doute le problème principal de l'époque.
Mais ça veut dire quoi? Qu'on va perdre 4 années, là, clairement, ou pas? Ou il y a quand même des choses qui sont heureusement en route et que ne pourra pas contourner de toute façon le président américain?
Écoutez, moi, j'ai une attitude de journaliste et d'analyste, donc je déteste prévoir ce qui va se passer. Je décris juste les conditions d'une dégradation possible. Mais je n'imagine pas que cette présidence et l'évolution des États-Unis puissent nous permettre d'aller globalement dans un bon sens, ne serait-ce que parce qu'à relativement court terme, Donald Trump va libérer toutes les réglementations environnementales, va pousser à fond les feux de l'extraction du pétrole en Arctique, dans les sables bitumineux, le pétrole de schiste, qui va tout faire pour pousser la croissance. Il rêve encore d'un monde où les États-Unis auraient une croissance du produit intérieur brut de 5% par an, voire plus. Et donc à un coût environnemental absolument énorme.
Alors dans les solutions, Hervé, une leçon, la leçon principale au fond à retenir pour essayer justement de ne pas aller droit dans le mur.
Bon, je vais en donner deux si vous permettez. une un peu psychologique et que chacun peut faire, c'est d'abord, il faut pas se poser la question de l'optimisme ou de du pessimisme, à mon avis, il faut être lucide. Mais à partir du moment où on est lucide, déjà, on est armé, et on se dit, ben, je suis là, je vais résister, ouais, je vais aller dans le bon sens, faut et avec d'autres, voilà, surtout, ne pas être seul, on l'a dit dans
se un autre... Se positionner soi-même en tant que personne face à l'immensité du monde, ça c'est une leçon à retenir.
Et agir avec les autres, et batailler, hein, disons-le franchement, même si c'est par la non-violence. Et deuxième chose, la plus générale, se dire, la question fondamentale, le verrou qui nous bloque tout ça, qui nous entraîne dans le mauvais sens, c'est l'inégalité. Donc politiquement, il faut dire qu'il faut réduire drastiquement les inégalités. Et pour prendre un exemple dans l'actualité, on parle beaucoup du revenu universel, c'est très bien. Mais si on parle du revenu universel sans parler en même temps du revenu maximal admissible, on ne fait que la moitié du chemin. Il ne faut pas seulement aider à ce qu'il y ait plus de pauvres ou que la situation en bas soit meilleure, mais il faut qu'en haut, les revenus diminuent fortement.
Ouais. Et puis une idée tient pour Catherine Dolto et Emma Lacloun, ça fait partie des 12 propositions d'Hervé Kempf, faire passer un message d'amour avec beaucoup de force. Ça, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus aujourd'hui. Même Yannick Jadot, par exemple, hein, revendique beaucoup cette notion d'amour.
Oui, Catherine Dolto. Bah, avant d'aller plus loin, je voudrais dire que réduire les inégalités, c'est aussi prendre en compte tous les cerveaux des tout-petits dans la vie prénatale chez les bébés. Parce qu'on laisse en friche des tas de cerveaux qui pourraient devenir magnifiques. Et ça, c'est vraiment dégoûtant, parce que maintenant, on sait comment on peut faire autrement. Voilà, bon. Nous, notre arme, c'est le rire. Hein. Le rire et la poésie et l'émotion. Et on fait passer alors des idées sur l'amour et sur l'écologie, dans le spectacle humain, qui sont à peu près tout ce que vous venez de dire, mais avec cette arme-là.
Et avancer vers une quête de sens, c'est la dernière idée clé, hein, justement, de ces propositions. Merci beaucoup Hervé Kempf, vous restez avec nous, hein, évidemment, vous êtes chez vous dans ce studio, tout est prêt pour que tout empire, 12 leçons pour éviter la catastrophe, ça vient de paraître, et c'est au seuil. Et on parle d'amour dans un instant.
Où vai, où vau nei, te haavaya oe. Vai mo, vou nei, te ai ai oi. Ya ta ta ra tu vou, tu nei huru. I mo te, ri ari ai, tu mata maru. Ama wi wi yo, waha ama wi wi yo, ito mo te e. Na to puro tu e, ita ma to ha iri iri e. Te poa va e I ore, ite ai a u, e arata I a u. Ya oe.
ça nous fait du bien d'entendre ça au cœur de l'hiver. Ils arrivent de Tahiti, Vaitani, avec Ovaï à l'instant. Catherine Dolto, Myriam Menant, alias Emala Clown, de retour sur scène avec le Grand Symposium et Tout sur l'amour. C'est au théâtre de Belleville à Paris, dans le 11e, jusqu'au 30 janvier. Vous jouez le dimanche et le lundi, hein, c'est ça.
Oui, on ne veut pas faire trop fort l'amour, là, en fait.
Ben oui, il faut que le désir s'installe toujours. Et c'est le deuxième, troisième spectacle ensemble.
C'est le deuxième, deuxième. Numéro 2. Il y a un numéro 3 qui s'appelle Humain, qui est sur l'écologie, mais celui-là, c'est numéro 2.
Ouais. Alors, symposium, ça fait un peu peur, ça, comme mot, non?
Mais non, mais c'est parce que le dialogue de Platon, le banquet, en fait, c'est le symposium. Donc,
on reprend l'affaire là où Platon l'a laissé.
Voilà, en toute modestie. Évidemment. Myriam, qui est Emma la clown?
Une chose dans une valise que je sors quand je vais sur scène. Ouais. C'est un être, un second moi, un enfant, une grande sage, une génialitude, une très grande mauvaise foi.
Une génialitude,
ouais. Je sais pas trop. Ouais.
Et c'est ce duo, hein, ce binôme que vous avez construit ensemble et qui fonctionne très bien.
Très très bien.
Avec Catherine Dolto, la caution scientifique, hein, finalement.
Grand mot.
Tout ce rendez-vous. Et puis Emma, comment vous travaillez toutes les deux là ensemble?
On travaille pas beaucoup.
Sur scène. Alors Emma, beaucoup dans l'improvisation?
Ah oui.
Tout le
oui.
temps dans l'improvisation?
Bon, au bout d'un moment, ça finit par se fixer.
Donnez-nous vos petits secrets.
Non, ouais. Non, mais au bout d'un moment, ça finit par se fixer. Disons qu'on travaille comme ça, on réunit toute notre matière. Catherine, elle fait un conducteur parce que moi je sais pas faire ça et on ouais. Et puis moi j'apporte des petites choses comme ça artistiques et puis quand on commence à jouer devant un public, c'est là où je commence à travailler moi.
Ouais.
Donc là, on est à 28-30 représentations du symposium. Donc là, ça y est, c'est parti. Je sais ce que je fais, j'en rajoute si j'en ai envie.
Ouais. Et on l'a fait en 4 jours, au départ, jours, on l'a monté, spectacle.
Oui. Ouais. Et ça y est, vous êtes vraiment une mordue de la scène, Catherine Dolto.
Mais oui, mais moi, c'était mes premiers amours. Avant en sortant du bac, j'ai fait l'école de Jacques Lecoq, la même qu'elle, mais 30 ans avant. Donc après, il y a eu la sociologie, la médecine. Mais en fait, je suis complètement cohérente. En fait, moi, ce que je cherche, c'est un moyen de toucher les gens à propos des choses qui me paraissent très importantes chez les pour les humains, parce que les humains à la fois ils me terrifient puis je les aime quand même, donc tout ce que la vie m'a appris, j'ai envie de le partager avec eux, puisqu'en tant que thérapeute on brasse beaucoup de souffrances et un thérapeute il est obligé d'être optimiste, moi je suis très très pessimiste, mais je suis acculée à l'optimiste parce que sinon on se tire une balle dans la tête demain, ouais. Quand on voit l'état de la planète. Donc, essayer de transmettre aux autres ce que la souffrance des autres nous a appris, ben c'est pour moi, c'est un devoir. Puisque je crois que dans une vie humaine, ce qui donne sens à la vie, c'est la transmission. Et puis l'amour. Il n'y a que ça. Alors, on a tous reçu de notre planète, nos parents. Comment on transforme et comment on transmet?
Et vous, votre spécialité, c'est l'aptothérapie.
L'aptonomie,
oui. Hein, pour être tout à fait précis.
Aptopsychothérapie, ouais, aptonomie aussi, pré-post-natal.
Qui consiste en...
C'est la science de l'affectivité, c'est-à-dire c'est une connaissance du monde affectif et de son fonctionnement qui permet d'aborder les humains sans séparer le corps de l'esprit. Et ça, c'est ce dont on a vraiment besoin et on ne savait pas le faire. Maintenant, on sait.
Alors, ça vous arrive aussi d'improviser malgré vous sur scène, Catherine Dolto. Il n'y a pas que Emma la clown.
Oui.
Extrait.
Ah, c'est vrai.
Alors, en fait, je ne sais pas, Denis, tu as dit d'éteindre les appareils de téléphone ou pas? T'as pas dit, c'est tant mieux!
Ah ouais?
Non, j'explique pourquoi! Parce qu'en fait, si jamais il y a un téléphone qui sonne et que par exemple toi ou par exemple toi c'est ton amoureux qui appelle, tu décroches! Parce que c'est quand même une conférence sur l'amour, donc tu décroches, par contre tu mets les haut-parleurs parce qu'on veut savoir ce qui se passe. Bah oui!
Oui, c'est une espèce de thérapie de groupe, quoi!
Thérapie de groupe pour aller lapsus! Applaudissements! Oh non! Oh là là! Oh là 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 là!
Non mais c'est dimanche, il est 16h, le niveau est élevé déjà.
Oui. On fait une conférence sur l'amour et commence par la thérapie de groupe. Attends. Oh la honte, j'ai honte.
Moi aussi.
Bon ça va, alors si elle a honte, ça va.
Ah, il était beau ce lapsus, hein, Catherine. Ah, oui. La thérapie de groupe, ça, il a fait le tour du bureau déjà. On le garde celui-là.
Ah bah oui, on peut le garder.
Extraordinaire.
C'est un vrai lapsus ou c'est
pas? Mais oui, oui, oui. Ah oui, alors ça se voit.
Non, c'est un vrai lapsus, mais quelquefois il y a des impros.
Faut le reprendre, ça.
On se fait des blagues aussi.
Et alors vous le reprenez du coup après les...
Ça dépend, quelquefois on reprend, mais.
C'est compliqué de reprendre quelque chose comme ça
oui,
qui sort.
Oui, c'est plutôt spontané, mais quelquefois quand c'est vraiment trop beau, on le recase.
Et donc Emma, derrière, évidemment, on fait des caisses.
Ah ben elle ne lâche rien.
C'est ça, exactement. Alors vous êtes entourée sur scène. Comment on s'empare d'un tel sujet aussi vaste que l'amour?
Est-ce que tu veux raconter le début? Pourquoi est-ce qu'on a fait ça?
Un jour, je vais rejoindre Myriam pour jouer en Bretagne dans le train et je reçois un coup de téléphone à propos d'un ami qui devait aller faire quelque chose qui lui plaisait beaucoup et puis il devait y renoncer parce que sa copine était malade et qu'elle ne pouvait pas prendre le train, il fallait qu'il vienne la chercher, qu'il renonce à tout ce qu'il faisait, etc. Bon. Et ça m'avait beaucoup contrariée et je sors et je dis à Myriam, je dis « je voudrais la battre ». Tiens, on va faire un spectacle sur l'amour, parce que la névrose d'amour, moi, j'en peux plus. Quoi. Et c'est une tellement belle chose, et les gens en font tellement une usine à malheur. Et j'ai dit, on va inventer une unité de mesure qui sera le battre. C'est-à-dire combien il faut prendre sur soi pour pas taper sur l'autre, et en même temps, combien il mériterait qu'on lui tape dessus. Voilà. Et on est parti sur cette idée amusante, et puis après, c'est venu tout seul.
Mais c'est vrai que oui, quand un couple, par exemple, est à 90 battres, bah, faut se barrer, quoi. C'est beaucoup, 90.
C'est comme les décibels, ça commence à faire mal aux oreilles, un petit peu.
Il n'y a rien à faire.
Alors, vous avez fait un plan, vous avez travaillé sur des sujets particuliers, parce que c'est quand même protéiforme, on le disait tout à l'heure, ce sujet de l'amour. Il faut l'aborder de plein de points de vue.
Plusieurs thèmes, quoi. L'état amoureux, déjà, parce que ça intéresse tout le monde, semble-t-il. Le mariage, parce que ça fait partie un petit peu.
Là, on a un anthropologue. Un anthropologue qui parle de la polygamie.
La sexualité, c'est important d'en parler. Je pense que ça fait un peu partie de l'amour. Qu'est-ce que t'en penses, Catherine?
Oui et non. C'est ça le problème. On a vu avec les macaques tout à l'heure. C'est pas la même chose.
Non, mais Fukushima n'est pas loin. Fukushima n'est pas loin dans les macaques.
Et puis surtout, on fait le tour du monde aussi, parce qu'on voit dans les différentes cultures comment on aborde cette question de l'amour.
Chez les Touaregs, par exemple. Chez les taoïstes. Et puis alors, on a demandé à Étienne Klein de nous parler de la vision par un physicien de physique quantique de l'amour, ça, c'est assez intéressant.
Ah bon, on va écouter l'extrait, tiens.
Ah oui, très bien.
Ah bonjour, bonjour Étienne. Écoute, on est en train de se disputer un peu avec Emma.
Tais-toi !
Tu la connais. Et à propos du fonctionnement du cerveau et de l'amour, alors est-ce que tu peux nous
gratuitement.
Est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus, quelque chose de scientifique ?
Il dit oui, mais gratuit, va-t'en.
Eh bien, moi, je pense que le cerveau humain et toutes les émotions qu'il secrète a un fonctionnement qui est quantique, c'est-à-dire il est dans un état qui est constamment superposé.
Ben oui.
Comment ça se fait que tel paquet de quarks va tomber amoureux de tel autre ? Il y a un lien très fort qui se produit, qui n'est pas un lien chimique. Et puis la rupture. On décide qu'il n'y a plus d'interaction. Mais comment est-ce qu'on peut décider qu'il n'y a plus d'interaction si cette interaction peut s'expliquer par des processus objectivables? Comment on peut couper une interaction qui a pu démarrer de façon naturelle? C'est quand même bizarre, ça, non? Et moi, je n'ai pas la réponse. C'est peut-être que ce qui fait l'identité d'un individu, ce n'est pas simplement ses particules. Il se pourrait que la partie tête, de temps en temps, l'emporte sur la particule.
Voilà, Étienne Klein, avec vous sur ça.
Il y a aussi Patrick Vivray qui conclut, qui est un philosophe, qui fait une très belle intervention de conclusion.
Sur l'agapé, l'amour en grand, qui est quand même dans...
Au niveau des sociétés, quoi.
Ouais. Enfin, le couple vu comme deux paquets de quarks, c'est une autre vision de l'amour, quand même. Hein. C'est Emma qu'on entendait commenter.
Oui, il fait des commentaires
parce que
qui
vous
se
êtes, voilà, il y a ce grand écran, on voit justement vos invités scientifiques et Emma qui commente et qui d'ailleurs commence à avoir de bonnes connaissances scientifiques, puisqu'elle arrive même à anticiper les propos de ses invités. Il y a un moment où on parle de la femme qui est la ceinture du pantalon de l'homme, ça c'est chez les Touaregs. C'est chouette cette image.
C'est ça. Oui, bah c'est une ethnologue, donc Christiana Figueredo, qui nous a aidés, qui a bien étudié les Touaregs et qui nous a appris que les Touaregs apprennent la compassion dès l'enfance, non ?
Oui, et puis surtout aussi que chez eux, la beauté, c'est pas la forme plastique, c'est l'art de dire poétiquement l'amour. Les belles personnes, c'est celles qui savent dire ça, même si elles sont pas jolies à regarder.
Faut que vous alliez voir ce spectacle, Hervé Kempf, hein, puisqu'on propage de l'amour là, au Théâtre de Belleville.
Oui, c'est quand exactement, effectivement, avec plaisir.
Dimanche et lundi, vous nous dites.
D'accord. Voilà.
C'est un peu complet, mais on peut quand même trouver une place.
C'est jusqu'au 30 janvier, voilà. Ah, et puis vous allez partir en tournée.
Oui, on va à Mortagne-Humains, on va à Tréguier, on va... Oui, on faut regarder sur le site emmalacloune.com.
Et voilà, emmalacloune, qu'on retrouvera d'ailleurs demain avec notre ami Marie-Odile Monchicourt au Labo Régine.
Oui, tout à fait, un mathématicien. Je fais une conférence sur les mathématiques, donc on va parler des degrés ludiques. Je ne sais pas pourquoi tu rigoles comme ça, Catherine, à côté de moi. Degrés ludiques, voilà, c'est ce qui mesure le degré de magie dans l'univers. J'ai absolument pas encore compris, j'ai encore une nuit pour comprendre ce que je vais dire demain.
Vous allez être bien accompagné par Anatole Kelif.
C'est un grand mathématicien.
Qui est un très grand mathématicien.
Qui travaille avec Marc Lachaiseret, d'ailleurs. Ouais. Formidable.
Et vous serez donc sur la scène du Théâtre de la Reine Blanche.
Oui.
Et c'est lui qui nous a aidé à définir le battre.
Ouais.
Anatole, oui, tout à fait.
Donc ce sera à quelle heure demain ?
20h45.
Pour le Labo Origins, on peut là aussi réserver. Hein.
Oui, vous pouvez essayer, c'est un peu complet, mais essayez quand même.
Et malaclone.com par exemple, et puis Hervé.
Bah, je suis curieux, et le 3, on va aller voir ça avec passion, c'est l'amour, mais le troisième spectacle sur l'écologie en deux mots, c'est quand,
c'est quoi ? C'est une conférence anti-fin du monde, on va la jouer au Théâtre du Rond-Point le 9 février à 18h30.
Avec Hubert Reeves, comme partenaire en vidéo.
Et on parle justement, on revient un peu sur ce que vous dites, c'est-à-dire on parle d'agriculture, d'économie, parce que
de
c'est
René
quand même...
René Dubos, du Club des Cinq, c'est-à-dire Thatcher, ouais. Reagan, Milton Friedman...
Bon, bah, ça vous fait pas mal de spectacles dans la tête, ça,
oui,
Emma.
Mais oui, bah, j'ai rien d'autre, alors ça va.
EmmaLaClown.com hein, pour avoir toutes les dates et pour aller se régaler avec l'amour. Allez, vous restez avec nous dans un instant, on part au bout du monde pour voir justement comment notre cerveau se comporte dans les milieux extrêmes.
I thought I had it all together, but I was led astray. The day you walked away, you were the clock that was ticking in my heart. Changed my state of mind, but love's so hard to find. Your feelings changed like the weather, went from clear to gray, all that night.
Baby, I'm yours avec Breakbot sur France Inter.
La tête au carré. Le club.
1, 2, 3. Inspiration, petit pas de pause. 1, 2, 3. Expiration. Et on expulse bien tout l'air qu'on a dans les poumons, hein, d'accord? Et si vous voulez augmenter votre vitesse, eh ben vous n'avez qu'à allonger le pas. D'accord, Mathieu?
Avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Il se raconte des drôles de trucs derrière ce micro. Catherine Dolto, qu'est-ce que vous avez envie de faire avec Margaret Thatcher?
Ah non, je veux enfermer notre camarade Claude avec elle dans une pièce fermée.
C'est
parce
pas gentil,
que c'est une expérience
c'est
extrême comme une autre.
Bah oui, mais là c'est un peu trop tard. Christian Clos, vous qui êtes explorateur, initiateur, directeur général des expéditions Adaptation, on vous avait vu avant le départ d'ailleurs. Hein. Alors là, vous en avez fait 3 sur 4.
C'est ça.
Ce qui est déjà pas si mal. 4 aventures dans les milieux les plus extrêmes de la planète. Bah, ça va, écoutez, vous avez l'air plutôt en forme. Catherine Dolto qui a plein de questions à vous poser. En tout cas, c'était le cas tout à l'heure. Elle avait l'air très intriguée par ce que vous faisiez pour nous parler de cette aventure quand même hors du commun. Là, c'est la première phase qui va s'achever avec la Sibérie là dans quelques semaines.
Oui, c'est la première phase que je fais en solitaire. Donc 4 fois 30 jours dans des milieux extrêmes, les plus extrêmes. Et puis il y aura une deuxième phase l'année prochaine où cette fois, il y aura 20 personnes avec moi, 10 femmes et 10 hommes, avec un peu moins d'expérience que moi, a priori, des terrains extrêmes. Comment emmener? Sachant que pour nous, ces terrains extrêmes, c'est d'abord des catalyseurs, des focalisateurs, puisqu'ils représentent des systèmes de crise, des systèmes face auxquels on est démuni à la base. On entre dans quelque chose qui nous dépasse, mais sur laquelle on n'a pas d'influence.
Ouais.
Par conséquent, il faut trouver des solutions hors modification du milieu ou du système qui se passe, en nous donc, pour s'adapter.
Ouais. Et la science est là hein, pour étudier tout ce qui se passe, justement. C'est ça, c'est vraiment une vraie expédition scientifique.
Oui, il faut toujours, aux impressions qu'on peut avoir et aux hypothèses qu'on peut émettre, associer à la science, puisque c'est là que les hypothèses se confirment ou s'infirment et qu'on fait avancer les choses. Donc il y a tout un programme, notamment avec le laboratoire des neurosciences cognitives de Paris, de l'École normale supérieure, où on travaille sur IRM. Alors évidemment, pas sur le terrain, mais avant, après, c'est même ouais. fondamental. On cartographie, entre guillemets, le cerveau avant, on le cartographie après. On regarde surtout s'il est toujours là. C'est pas toujours évident, ouais. mais voilà, est-ce qu'il y a eu des modifications, où, comment, pourquoi, puis ensuite avec ce qu'on fait sur le terrain, donc les analyses physiologiques, cognitives qu'on fait in situ, ben on va pouvoir essayer de comprendre si ce qu'on a observé en modification dans le post-IRM, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a des choses qui expliquent ces modifications, et finalement est-ce qu'il y aurait chez tout le monde, ou non, une manière similaire de trouver ces fameuses solutions adaptatives, ou au contraire, ça part dans tous les sens, et là, ce sera un peu plus compliqué à ouais. expliquer.
Mais il y a déjà des changements qui ont été observés sur votre cerveau, ou pas?
Alors, c'est trop tôt, clairement, parce qu'aujourd'hui, on fait des IRM, mais ça va être très longtemps à analyser. On cherche quand même des aiguilles dans une botte de foin, et l'image est d'ailleurs fausse, parce que ce serait plutôt l'aiguille dans l'univers, tellement le cerveau est vaste, tellement il est complexe, et tellement on a encore à apprendre sur lui. Mais enfin, on sait qu'on va avoir des choses, on le soupçonne, et ça va être analysé dans les mois à venir.
Alors, quel milieu déjà? Parce qu'on en
a Alors, il y a eu le Dachteloup Tonyrol, le plus chaud du monde, qui s'est malheureusement arrêté un peu plus tôt que prévu, parce que j'ai eu des copains de la police secrète qui ont voulu que je reparte. Bon, bref, c'est une autre histoire.
C'était l'Iran. Hein.
Ça, c'était l'Iran. Ensuite, il y a eu le Chili, avec les canaux marins de Patagonie, qui sont dans la zone la plus pluvieuse du monde. Hein. On parle de 10 000 mm par an, comparé à Paris, où c'est 500-600 mm par an. Et puis là, je reviens d'Amazonie, une zone centrale en Amazonie, dans le parc de Jo, au Brésil. Et puis, je vais repartir en Sibérie. Alors, ce qui est intéressant, c'est encore une fois, ces milieux, ils sont contraignants, ils sont complexes, mais ils sont vraiment pas... C'est pas le milieu en tant que tel, c'est ce que représente ce milieu et ce qu'on peut observer dans notre capacité de trouver des solutions.
Donc du très chaud, du très froid, du très sec et de l'humide. Hein.
Voilà, c'est ouais. ça.
Hervé.
Qu'est-ce que vous faites en fait là-bas?
Alors je cherche l'amour.
Non mais, c'est pendant toute la journée, l'amour ça prend du temps.
Il
mais...
y a plusieurs hypothèses hein, qui sont posées, que moi j'avais posées au fil de mes années d'expédition et puis qu'on a beaucoup discuté ensuite avec les différents scientifiques. D'abord, j'ai fait un trajet, un déplacement, parce que la capacité d'adaptation passe quand même, à mon sens, dans une forme de déplacement, qu'il soit mental ou réel, mais l'immobilisme dans des milieux tels que ceux-là, si complexes, peut amener aussi à un peu tourner en rond sur soi-même et finalement jamais trouver d'ouverture. Donc le déplacement permet d'avoir un objectif, même s'il n'est pas unitaire. Quand je dis que je cherche l'amour, c'est pas tout à fait faux. Dans le sens que je suis intimement persuadé que lorsqu'on vit une situation nouvelle qui nous dépasse, extrême, notre premier réflexe, c'est de penser à ce qu'on avait avant et qui était mieux. En tout cas, qu'on considère comme mieux. Et puis, si on continue là-dessus, si on ne trouve pas dans la nouvelle situation, dans le nouvel élément, des raisons de s'émerveiller, des raisons d'aimer, quelque chose, même petit, qui va nous permettre de reconstruire autour, puis petit à petit de trouver que finalement dans ce nouvel espace, ce nouvel univers, ce nouveau moment, il y a quand même des choses pas si mal, et puis qu'on peut recommencer à construire autour, alors on est dans un début d'adaptation qui nous permettra de vivre cette nouvelle situation. Parce que notre premier réflexe, c'est de vouloir modifier la situation. Sauf que quand vous avez, dans notre cas, 200 km/h de vent, ou quand vous avez un tsunami qui s'est passé, c'est trop tard pour la modifier. Il faut agir sur le nouvel élément, et puis agir ensuite, et c'est pas à vous que je vais devoir convaincre, agir pour que ça ne se reproduise pas de la même manière.
Est-ce que ce qu'on cherche pas avant tout, c'est l'autre, au fond, aussi?
Mais absolument. L'humain est fondamentalement un animal social. Et on a tendance à l'oublier aujourd'hui, on a tendance à croire qu'il y a des humains qui cherchent à s'entretuer partout. C'est pas fou, il y a des problèmes majeurs, mais d'abord un animal social, et d'ailleurs c'est pas pour rien que on n'est pas très fort, on n'est pas très puissant, et si on a pu survivre, et si on a pu dépasser le mammouth ou le dinosaure ou autre, c'est que aujourd'hui on a appris à fonctionner en commun. Et c'est ça qu'on doit retrouver, c'est ces fameux neurones sociaux qui ont commencé à être émis par un certain nombre de scientifiques qui dépassent le cadre du simple neurone miroir, mais qui est vraiment des neurones qui ne fonctionnent que parce qu'ils sont en interconnexion. Et la preuve en est que quand on est seul, pour pouvoir éviter le délabrement, on parle à haute voix.
C'est comme Emma la clown qui cherche l'amour sur scène aussi, hein? Parce qu'avec le public, vous avez trouvé Jean-Marc quand même, j'ai vu des images.
Il change de prénom tous les soirs. Mais
voilà, oui. Et en plus, vous changez tous les soirs.
C'est amusant parce que les bébés, ils font comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont
quand un tout petit est en difficulté, il faut chercher quel est le paradis qu'il a perdu. Et c'est ce que vous dites.
Mais je crois qu'on est de toute façon toujours des grands bébés qui essayent d'évoluer. Hein.
Mais ce que je trouve passionnant dans votre affaire, c'est que c'est comme si vous mettiez une loupe sur le passage de survie à vie.
Oui.
Hein, comment on se met en survie et puis on reprend la vie dans la relation aux autres, dans l'imaginaire, dans la parole.
L'idée est clairement là, dans le sens que lorsqu'on rentre dans un système extrême, encore une fois, ce système extrême est extrême pour moi par rapport à sa situation physiologique, géomorphologique, mais en réalité, une personne qui vit quelque chose de difficile dans sa vie, une crise, quelle que soit cette personne, elle va devoir retrouver le chemin de la vie et de l'émerveillement. Et ça, c'est fondamental.
Christian Clos, on part avec vous en Patagonie, justement. C'est une équipe de TF1 qui vous avait suivi en octobre dernier.
Est-ce que vous m'entendez ?
Le professeur Cochelin cherche à comprendre comment le cerveau se modifie en fonction des conditions de vie et dans quelle partie.
On a des petites idées, déjà, parce qu'on connaît un petit peu le cerveau, quand même. Donc, a priori, c'est plutôt dans la partie frontale. C'est tout ce qui est lié au jugement et à la prise de décision.
On va voir des ramifications se développer
On va peut-être voir, hein, c'est des hypothèses, hein, mais c'est une des régions qu'on va regarder particulièrement.
Avant cela, Christian Clos part en quelque sorte en éclaireur. Et pour la première expédition, 3 scientifiques ont fait le déplacement en Patagonie pour lui expliquer comment il devra gérer seul ses prélèvements, ses analyses. En tout, 9 kilos de matériel, comme cet électroencéphalogramme qui va mesurer la qualité de son sommeil.
Ah oui, vous partez pas léger quand même. Hein.
Non, parce que 9 kilos, c'est 9 kilos de matériel scientifique. Donc, il s'ajoute ensuite à l'énergie, il s'ajoute à la nourriture, il s'ajoute à plein de choses. Mais voilà, il y a ne serait-ce que 5 ou 6 ans, on n'aurait pas pu faire les études qu'on fait parce que le matériel était encore trop lourd, trop gros. On travaille beaucoup à développer des équipements rationnels, petits, moins énergivores. Ça fait partie du métier aussi qu'on a besoin de faire. Mais finalement, tout ça, ça reste des équipements. Ce qui est important, c'est ce qu'on observe effectivement dans la sensation, le sentiment, l'état d'être.
Vous en avez eu des sensations en Patagonie parce que vous êtes tombé à l'eau, c'est ça?
Oui.
En faisant quoi, du canoë?
En faisant du canoë, il y a eu une rafale très puissante. Deux fois, ça m'est arrivé, des rafales très puissantes de vent qui m'ont jeté de mon kayak. Là, l'eau est à 2 degrés, mon kayak est là-bas. Voilà, c'est typiquement le genre de situation sur laquelle
Et là, vous dites, chouette, hein, la science va apprendre des trucs grâce à moi.
Mais c'est pas si faux. Non, mais là, ce qui est très intéressant, c'est que la première réflexe qu'on a, c'est d'imaginer tout ce qu'on nous a dit. Et je crois qu'il y a une chose importante, par rapport à ce que disait aussi avec M. Faudébus sur la notion de tout empire, on ne parle pas assez de la peur et de la notion de la peur qui soudainement implique à se renfermer. Ouais. Et on le voit aujourd'hui, tout le monde se renferme sur lui-même. Et finalement, quand on a une situation dangereuse, on se renferme sur soi-même en disant « On m'a dit que dans une eau à 2 degrés, on ne survivait pas plus de 3 minutes. Si j'ai ça en tête, je suis mort.
Ouais. »
Dès le moment où je dépasse ça, je réalise que finalement, au bout d'un quart d'heure, j'y suis toujours et je vis toujours. Mais il faut savoir dépasser cette peur sociétale. Et nous, je crois que c'est une des leçons d'adaptation. Travaillons communément sur nos peurs.
Deuxième partie de votre expédition de l'année prochaine, 2018, après la Sibérie, dans quelques jours. Vous avez sélectionné 20 personnes, vous êtes en cours de sélection. Il y a eu énormément de candidatures, on avait lancé l'appel dans l'émission.
Voilà, il y a eu des centaines et des centaines de candidatures, donc ça nous a fait très plaisir. Ça montre aussi l'intérêt. Les gens aujourd'hui se questionnent, ils ont besoin de comprendre comment on va faire demain et donc comment notre cerveau va réagir. Et on est en phase là maintenant d'audition. On va commencer les auditions, mais on est ravis de voir l'engouement de ce projet, adaptation 4x30 jours, non seulement du public qui le suit, mais de ces gens qui ont envie spontanément et bénévolement, en plus parce qu'on ne va pas les payer, de participer à ce projet.
Emma, vous auriez aimé partir avec
pas le canoë, non, mais
vous allez voir.
Mais en même temps,
bien.
Parce que c'est en rapport direct avec la nature. C'est sûr que passer 4 mois dans le métro, au fond d'un métro new-yorkais, je ne sais pas si je ferais l'expérience extrême comme ça, mais l'autre, oui.
Non, mais justement, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde pense quelque chose qu'il ne peut pas faire ou un milieu qui ne lui convient pas. Et je pense qu'on arrivera tous au bout de chaque milieu.
On termine avec ça et puis on vous suivra sur la Sibérie, donc Christian Clos. Hein, prochaine étape, vous partez
dans 6 jours.
Dans quelques jours. Et puis donc la deuxième aventure avec ces 20 personnes que vous êtes en train de recruter. Merci beaucoup à vous. Vous avez un site internet?
Alors on peut suivre ça sur adaptationxp.com ou sur Facebook, Adaptation by Christian Clos, en toute modestie.
Voilà. Tout est sur le site de La Tête au Carré. Hervé Kempf, tout est prêt pour que tout empire. C'est aux éditions du Seuil. C'est surtout le livre qu'il ne faut pas lire quand on part en milieu extrême, justement.
Si, justement, je vais prendre avec moi.
Si, au contraire, ça remonte le moral à la fin.
Ah bah oui. Et Catherine Dolto et Myriam Menant, c'est symposium autour de l'amour au Théâtre de Belleville jusqu'au 30 janvier. Dans quelques instants, affaires sensibles, une histoire d'amour aussi entre Montand et Signoret, la fin des illusions. Ce sera le thème de cette fiction avec Fabrice Rouel dans quelques minutes.